commencer, Bezrat Hashem, notre deuxième chiour sur le chapitre 7. Le cours de la semaine dernière était un petit peu compliqué, on va essayer de simplifier les choses cette semaine.
Ah, sur le naturel et sur...
Ah, tout à l'heure, quand je préparais ce cours, je me suis dit, il faut essayer de... on va essayer de simplifier certains concepts, parce que c'est un cours qui est déjà assez compliqué.
On va essayer de mettre l'individualisme et le...
Alors, on a dit « Ashreinu matafrelkenu manaim goralinu ». On avait commencé le cours la semaine dernière, on avait amené un pasouk, qu'on dit tous les jours dans la tfila, qui dit « Ashrei, nous sommes heureux, matof chelkenu umanaim goralenu, combien notre part est bonne, et combien notre sort est bon. » Alors on avait expliqué la semaine dernière la différence qu'il y a entre une part et un sort. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué?
Ouais, exactement.
Je vais rappeler rapidement. On avait dit que c'est quoi une part? Une part, c'est par exemple, on va prendre David, il va nous ouvrir les bretzels. Il va distribuer une part à chacun.
Donc, il veut dire bretelles.
Donc, la part de chacun correspondra peut-être à la corpulence de chacun. Ou peut-être, ça va.
Par exemple. Si on est au régime comme moi, là, je touche pas.
Ah, ça peut être un paramètre, ça aussi.
Oui, bien sûr.
D'accord. Ça, c'est chelkenu, un chelek. On va partager, chacun va recevoir sa part. Un goral, c'est quoi un goral? Un goral, c'est un tirage au sort.
Un tirage au sort.
On avait expliqué la semaine dernière qu'un tirage au sort, par définition, il n'y a pas de raison. D'accord? Bon. Donc, un goral, il n'y a pas de raison. On avait donné un exemple la semaine dernière, vous vous rappelez? Tu étais là, c'est ça?
Non,
il
n'était pas là.
Alors, on va faire un petit topo rapide.
Et au ski?
Non,
on avait expliqué que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a partagé la terre d'Eretz Israël, on a eu les deux options. On a eu l'option Chelek et l'option Goral. C'est-à-dire, d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de partager la terre d'Eretz Israël. Et le partage était un partage qui était logique, qui suivait une certaine logique et que chaque tribu a reçu une parcelle qui correspondait à ses besoins. Par exemple, on sait que Zevouloun, on l'a installé à côté de la mer. Pourquoi à côté de la mer? Parce que Zevouloun, c'était un gros businessman, il exportait beaucoup, donc qui dit exporter? Il avait besoin d'avoir un accès aux mers. C'était ça l'aéroport de l'époque. D'accord? Bon. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il a partagé la terre d'Eretz Israël. Il a demandé à Moshe Rabbeinu de partager la terre d'Eretz Israël. On a eu le partage qui était en mode Chelek. Ça veut dire quoi en mode Chelek? Ça veut dire en mode partage logique. Et on a eu ce même partage. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, maintenant après tu vas prendre des cartes, tu vas lever les cartes. Donc tu vas prendre, imaginez-vous deux chapeaux. Dans un chapeau, il y a des cartes avec les noms des tribus. Dans un autre chapeau, il y a les noms des 12 endroits qu'on a partagé à la terre d'Israël. On va prendre une carte. D'accord? Donc je sors une carte, hop, c'est Lévi, ok, d'accord. Je sors une autre carte, c'est tombé sur telle partie, donc on aura telle partie. Et le miracle qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que Kadosh Baruch Hu a fait un miracle.
Il a mélangé les deux.
Que les deux partages, ça veut dire d'abord Moshe Rabbeinu, il a fait un partage logique. Il a dit voilà, toi Zevouloun, je pense que tu prends ça. Toi Issachar, je pense que tu prendras ça. Toi Binyamin, je pense que tu prendras ça. Et après, quand on a fait le tirage au sort, toutes les tribus sont sorties exactement ce que Moshe Rabbeinu avait calculé. C'est un miracle. Est-ce que vous me suivez? Ah oui, celui qui voit ça, il dit c'est pas possible, c'est truqué. Il y a quelque chose là,
les biaisés,
les bouts, ils sont
possibles,
d'accord? Bon, et là on a expliqué ça la semaine dernière.
Pourquoi
on a parlé de tout ça? On a dit qu'en vérité la notion de chelek et la notion de goral, d'accord? La notion de chelek, c'est quand on a une chose qui est logique, partage logique. La notion de goral, c'est quand on a quelque chose qui est un tirage au sort, c'est-à-dire quelque chose qui est illogique. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on est dans la tefillah tous les matins? On dit Ashreinu, nous sommes heureux. Matov chelkenu. Combien notre part est belle. C'est-à-dire déjà le fait même qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une part, d'accord, et qu'il nous a dit, il nous a choisi parmi les nations et qu'il nous a donné une part, on est heureux parce qu'on a été bien lotis, d'accord. Mais après, tout de suite, on rajoute, on dit, mais attention, on dit, ne crois pas que la part que tu as reçue, c'est parce que vraiment tu l'as méritée. En vérité, tu ne la méritais pas spécialement. En vérité, il y a un paramètre ici qui est surnaturel. Le paramètre du goral, du tirage au sort. Et c'est pour ça qu'on dit tous les matins, on dit, matov chelkenu. D'abord, on remercie Akadosh Baruch Hu que notre part est bonne. D'accord? C'est on remercie Akadosh Baruch Hu qu'on a bien été lotis. Mais après, tout de suite, on enchaîne, on dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, en vérité, manaim goralenu. En vérité, c'est pas seulement une part qu'on a reçue. Parce que, c'est pas équitable. On a reçu beaucoup plus de ce qu'on méritait. C'est pour ça qu'on rajoute tout de suite au manaim goralenu pour dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous a donné, c'est en vérité un goral. C'est un tirage au sort. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est plus haut. Qui dépasse l'entendement, qui dépasse la logique. Bon. Alors, maintenant, on s'est arrêté sur ça la semaine dernière. D'accord? On a expliqué qu'en vérité, et ça va rejoindre les cours précédents, c'est une des grandes questions qui se posent dans le judaïsme, à savoir, est-ce qu'il faut donner la place, hein, vous rappelez comment on a défini la semaine dernière,
le holisme, l'individualisme.
Ah voilà. Est-ce qu'il faut donner la place au klal? Le klal, ça veut dire
la globalité,
la communauté. Ou est-ce qu'il faut donner la place
à chacun,
à l'individuel? Alors bon, vous allez me poser la question, vous allez entendre ça. Bonsoir. D'accord. Vous allez me dire, a priori la question est très simple. Bon, c'est faut toujours trouver le juste milieu. Sauf que c'est une question qui est très compliquée. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on avait donné un exemple la semaine dernière. On avait dit par exemple, il y avait beaucoup de, ça arrivait plusieurs fois qu'il y avait des directeurs d'école qui écrivaient au rabbi.
Ah oui, pour l'enfant, hein,
qui disait, il y a un enfant qui est turbulent.
Turbulent.
Qu'est-ce qu'on fait? Un enfant vraiment qui dérange. Qu'est-ce qu'on fait? Il tient pas, il écoute pas ce qu'on lui dit.
On doit le garder. Tant qu'il
donc alors encore une fois, donc là on a un exemple d'un cas dans lequel on a un conflit entre l'individualisme et le holisme.
La collectivité.
D'accord. D'un côté, tu as l'individualisme qui te dit, bah écoute, tu as un enfant, tu vas le virer, mais qu'est-ce qui va devenir cet enfant? Et d'un autre côté, tu as l'aspect collectif qui te dit non. Il te dit, mais oui, mais c'est bien beau de garder un, mais quand on a un choix entre 1 et 20, la halakha est comme les 20.
Bien sûr.
D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et dans plusieurs lettres, comme j'ai raconté la semaine dernière, dans plusieurs lettres, la majorité des lettres même que j'ai lues, à chaque fois, leur avis donnait ce style de conseil. Ils disaient, il faut voir est-ce que vraiment l'enfant dérange les autres enfants. Parce que des fois, l'enfant ne dérange pas les autres enfants. Des fois, l'enfant dérange le professeur. Ça, dans ce cas-là, le professeur, il doit apprendre à se taire. D'accord? C'est vrai. Quantique. Il faut voir la question, il faut bien se poser la question. Est-ce que c'est moi que ça dérange? Est-ce que c'est le professeur que ça dérange? Ou est-ce que c'est la classe que ça dérange? Est-ce que c'est la communauté que ça dérange? Il faut toujours poser cette question. Et c'est une question qui est très difficile. Et si BMET, on arrive à la conclusion que BMET, que l'enfant dérange la classe, parce que par exemple, on a un cas dans lequel t'as un enfant qui a une mauvaise influence sur d'autres enfants. Hein, un enfant qui amène, pas, je sais pas moi, il va amener des cigarettes en classe, enfin je vous dis des cas d'exemple que j'ai lu, hein. Ou bien, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ou bien il y avait même des écoles des fois où il y avait de la drogue, des trucs comme ça, tu vois. Donc là c'est clair qu'il y a un problème, pas seulement pour l'enfant. Si c'est un enfant qui se drogue chez lui à la maison, ou qui fume chez lui à la maison, mais que personne n'est au courant, et qu'il embête personne, et que le directeur il était au courant que cet enfant fume à la maison, ça d'après leur avis c'est pas une clause pour le virer. Pourquoi? Tant qu'il n'a pas dévergondé les autres enfants, et tant que tu ne penses pas qu'il va dévergonder les enfants, il ne faut pas le virer.
Ouais, bah, moi je me donnais un cas. Ils ont, quand j'étais allé en Essonne, comment il s'appelle cette, j'ai oublié son nom. On a eu dans le lycée, donc des élèves de seconde, 4 élèves de seconde. Ils ont chahuté un petit peu. Ont une fille, d'accord. À la récréation, ils l'ont bloqué dans les toilettes des filles. Ils ont fait ce qu'on appelait une tournante.
Qui a fait ça?
Les 4 garçons.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Qui a lancé. Attends, mais je te véridique. Hein. Et le copain de la petite fille, de la jeune fille, a demandé à ses copains de faire ça et lui a tout filmé. Le proviseur.
C'est chaud là-bas.
Je te promets que c'est vrai. Le proviseur. J'étais en remplacement là, je suis resté 4 mois là-bas. Le proviseur a refusé de porter plainte pour ne pas faire de vagues. Et les 4 garçons, ils ont même pas été renvoyés. Il a fallu que les profs se mobilisent, fassent une demande.
Ouais,
je te promets. Mesny, un truc comme ça, je me rappelle plus. Non, je crois que je me rappelle plus le nom. Et il a pas été, ils ont pas été virés.
Non, mais c'est grave quand même. C'est grave, hein. Bon, en tout cas, voilà. La question qu'on se pose, c'est quelle place on a donné à l'individuel et quelle place on a donné à la collectivité. C'est très très difficile à répondre à cette question. L'Ichora, la réponse à cette question se trouve dans ce qu'on est en train de dire ici, Chelek et Goral. Ça veut dire, Chelek, quand on dit Chelek, c'est la part, c'est-à-dire que chacun a sa part. Et la notion de Goral, c'est la notion justement de collectivité. Donc on va essayer maintenant de développer tout ça. Et on va parler justement, pour développer tout ça, on va parler des mitzvot. Et c'est là qu'on va voir qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a fait la Torah, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait qu'une collectivité. On va se mettre dans la tête de Dieu, Kaviyachol. Dieu, il a créé un système qui doit correspondre à tout le monde. Donc s'il veut créer un système qui correspond pour tout le monde, il aurait pu faire une Torah avec, on va dire, quelques mitzvot basiques et une seule manière de les comprendre. Collectivité. Communisme. Ah, excusez-moi, j'ai rien contre les... Mais bon, communisme, ça veut dire qu'il y a une loi pour tout le monde. D'accord? Tout le monde pense la même chose, tout le monde dit la même chose,
la pensée unique.
D'accord? Pensée unique. une seule pensée. Alors, c'est un peu compliqué quand on voit la Torah. Je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Parce que d'un côté, ceux qui disent qu'il faut donner la place à l'individualisme, ils vont te dire il faut même pas donner d'ordre. Un livre comme la Torah ne doit même pas exister. Je veux dire à chacun, sert Dieu, et chacun il sert Dieu comme il entend. C'est ça l'individualisme aujourd'hui. C'est-à-dire, on te dit, écoute, laisse l'enfant se développer comme il pense, il finira par bien se développer. La Torah n'a pas fait ça.
Non, c'est pas ça.
On t'a donné un texte avec des lois définies. Mais d'un autre côté, on n'est pas tombé dans l'extrême de l'autre côté, à savoir, ça veut dire à dire, bon, alors on a donné un texte, tout le monde croit le même texte et tout le monde va le comprendre de la même manière. Non. C'est-à-dire qu'on a fait les deux en même temps. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'en même temps, on te donne un texte, le même pour tout le monde.
Un cadre.
Donc c'est un cadre. Donc ça, c'est l'esprit collectif. Mais en même temps, dans l'esprit collectif, on va essayer de faire que chaque personne, va se l'approprier, il va l'adapter. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous par exemple que Dieu nous impose, il va dire, tout le monde, dorénavant, doit mettre une chemise. Tout le monde. Tous les garçons à partir de 13 ans doivent mettre une chemise. D'accord ?
Il mettait quoi,
donc il a imposé une chemise. Avant, il mettait ce qu'il voulait. Maintenant, tout le monde doit mettre une chemise. Donc c'est collectif, ça c'est un ordre qui est collectif. Tout le monde doit mettre une chemise. Là, mais après vient la Torah, va te dire, bon, tu dois mettre une chemise, mais maintenant, chacun peut décider quelle couleur la chemise, quelle matière, d'accord ? Tu comprends ?
Bleu à carreaux.
Même dans ça, il y a l'école. Comment il va être le col ?
Col italien, bouton, pas.
Bouton de manchette.
Pas beaucoup de marge, mais...
Bah la coupe est toujours la même, hein, quand même.
D'accord, donc qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple ? On voit que... Finalement, on nous a donné, ça veut dire qu'on nous a restreint les choix. On a dit, voilà, tu dois mettre une chemise. Mais dans la chemise, on te dit, bon, maintenant tu mets une chemise, après, ce que toi tu appelleras une chemise, ce sera une chemise. Alors, il va te dire, alors, t'as un racham qui va venir dans la Gemara, qui va dire, pour moi, une chemise, elle peut être que blanche. Bon, il a imposé comme ça. T'as un autre qui va dire, non, pour moi, une chemise, elle peut avoir toutes les couleurs, mais elle doit être en coton. Sinon, c'est pas bon. Et donc, tu vois, c'est là que c'est sur ces choses-là qu'on aura des marloquettes. C'est un exemple que je vous donne. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple ? On voit la notion que d'un côté, on a imposé une chose à tout le monde, et d'un autre côté, dans ça même, on a donné la place à chacun. C'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui.
Liberté de choisir.
Donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné Tariag Mitzvot. Pourquoi Tariag Mitzvot ? Pourquoi 613 Mitzvot ? Parce que les 613 Mitzvot correspondent, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, aux 248 membres et aux 365 veines ou passages de membres. D'accord ? Et pourquoi ça doit correspondre à ça ? Pour montrer que chacun, il aura sa manière, il aura sa mitzvah sur laquelle il va appuyer. Par exemple, Dieu nous a dit, tu mettras une chemise, un pantalon et une veste. Maintenant, t'en as un, que lui, son truc, c'est la veste. Bah, lui, la veste, il met tout son truc dedans. Le reste, pas spécialement. T'en as un, son truc, c'est la chemise. T'en as un autre, c'est les pompes. C'est-à-dire, moi, les pompes, c'est le plus important.
Alors, comment tu intègres les mitzvot alors?
Et ça, c'est le... Justement, c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. On va expliquer que la Kadosh Baruch Hu, tout en nous donnant un texte prédéfini avec des mitzvot prédéfinis pour chacun, il nous donne la liberté, numéro un, de personnaliser une mitzvah. C'est ce qu'on fait. D'accord? Chacun, il personnalise la mitzvah. Et numéro deux, de kaviarol, choisir une mitzvah parmi les autres. Je dis pas que je fais pas les autres, mais voilà, moi, pour moi, les pompes, c'est le plus important. Des gens qui vont dire, j'ai entendu une fois quelqu'un qui m'a dit, pour moi, quand t'as des belles pompes, tu peux être habillé comme tu veux, c'est classe. C'est comme ça qu'ils pensent. Bon, peut-être un autre qui va dire, non, le plus important, c'est le chapeau.
C'est des lunettes.
Peu importe. Ça c'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'on a pris des éléments sur lesquels tout le monde était d'accord.
Je vois bien.
Et dans ça, on a trouvé une manière de faire la différence. Ça, c'est la manière de voir les choses de la Torah.
Alors, est-ce que les midot vont influer directement sur le type de mission et de mitzvot
que tu vas vouloir mettre
en œuvre?
Bien sûr, 100%.
Aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, avec les répercussions collectives.
Par exemple, t'as une personne qui va dire, une personne qui est généreuse, et la mitzvah qu'il va aimer, c'est achlasat orim, accueillir des invités. C'est sa mitzvah qu'il aime.
Ah, voilà.
Maintenant, t'as une autre personne peut-être qui va être plus rigoureuse, et la mitzvah qu'il va kiffer, c'est craindre Dieu. Chacun, il a ses domaines qui va, et la Torah te laisse, et la Torah accepte ça.
D'accord? Et on peut avoir plusieurs midot en même temps?
Ça veut dire que, imaginez-vous une maman qui va servir le même menu à tous les enfants, et chaque enfant, il aura sa manière de le manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a le même menu pour tout le monde a la même assiette.
Un va déguster, l'autre...
Mais un, il va déguster, l'autre, il va prendre un petit peu plus de ça, l'autre, il va s'arrêter sur ça. Ça, c'est la Torah. C'est-à-dire, on a le même menu pour tout le monde, et on va prendre le temps de s'arrêter sur chaque chose. Ça, c'est le rôle de Tariq Mitzvot. Alors, on va lire dans les mots maintenant, en haut, page 222. Ça, c'est une introduction seulement, j'ai fait un petit topo de... C'est plus clair, David?
Oui.
Continuons. Vine et Arazo, parce qu'il a écouté deux fois le cours la semaine dernière.
Pourquoi deux fois?
On est parti dans tous les sens.
Hein? Pourquoi? Ah, parce que la semaine dernière, on est parti. Il a révisé.
Ah.
Vine et Arazo, Av, Shelma, Laïme, Ira, Omid, Pachet, Adviprinat, Blikvul, Vetachlit, Lachayot, Lamotne, Lamimil, Enket, Vetachlit, Kemoshkatouf, Beidra, Rabba. Donc il dit, il explique comme ça, il dit, bien que donc cette énergie d'Akadosh Baruchou est une énergie qui est illimitée. Néanmoins, Afal Piken, Berid talemata alyadei timtsumim rabim lachayot nivraim vayetsurim vanaasim inechleket klal lemispar tariag. Voilà, c'est là que je voulais arriver. Bien que, bien sûr, l'énergie divine est une énergie qui est très très forte, mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu quand même créer ce qu'on appelle le klal. C'est quoi le klal? C'est qu'il a dit, voilà, il y a 613 mitzvot. Alors c'est intéressant parce que quand on étudie, vous savez, quand je dis qu'il y a 613 mitzvot, mais c'est pas facile d'arriver au compte de 613. On avait fait un cours sur ça il y a pas longtemps, Shabbat après-midi, qu'il y a plusieurs manières d'arriver au compte de 613 mitzvot. J'explique ce que je veux dire.
Il y en a qu'une qui les a
d'accord chez Ruth. Prenez par exemple, je vais vous donner, attendez, s'il y a le texte du Rambam ici, parce que je voulais vous montrer quelque chose de très, très intéressant.
C'est Ruth, hein, ou Yehudit, c'est Ruth hein, qui l'avait fait, les 613. Quand elle s'était convertie, elle avait fait les 613 mitzvot.
Ouais.
C'est ça, hein. C'est Ruth, hein?
C'est, alors, justement, ouais, je crois que c'est donner, Ruth, ouais. Je vais vous donner les principes, voilà. Le problème, c'est que la Torah, dans la Torah, c'est pas un texte que tu lis, d'accord? Et à côté de chaque mitzvah, t'as un petit numéro. Numéro 1, numéro 2, il n'y a pas. Et si on compte les mitzvot de la Torah, on peut arriver à 2000, sans problème. Ça dépend de ce que tu considères une mitzvah. D'accord? Alors, nous, maintenant, on étudie en général le Sefer HaMitzvot. Attendez, on étudie le Sefer HaMitzvot du Rambam. J'en ai parlé très rapidement au cours de l'après-midi de Shabbat après-midi de la dernière fois, mais là je vais vous donner plus en détail. D'ailleurs, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va finir l'étude du Rambam et on va recommencer. D'accord ? Donc c'est une bonne occasion. Je vous enverrai le SMS pour vous dire où ça se passera. Alors, le Rambam, nous en général on étudie le Sefer Mitzvot du Rambam. C'est lui, il a compilé, il a dit voilà ma manière de compter les 613 mitzvot. Mais il n'était pas le seul à le faire. Il y a d'autres qui ont compté les mitzvot, comme le Rassag, d'accord ? Comme le Ramban aussi, Nachman, il a marqué sur beaucoup de choses. Alors, je vais vous donner quelques principes, comme Maïmonide a expliqué comment il a compté les mitzvot. Alors, d'abord, bon, principe numéro 1, il a 14 principes. Je ne vais pas vous faire les 14, je vais vous donner quelques principes. Principe numéro 1, Ramban dit par exemple, tous les principes d'ordre rabbinique ne rentrent pas dans les 613 mitzvot. Bon, ça c'est logique. D'accord ? Après, ça complique. Il dit, autre chose, des fois dans la Torah, des fois il y a des halachot qu'on apprend dans la Torah, qui ne sont pas écrites explicitement dans la Torah, qu'on va apprendre au travers de ce qu'on appelle les Shlosh Esrei Midot, les 13 Midot, par exemple. Il y a des halachot dans la Torah où c'est pas écrit explicitement, mais on va te dire, puisqu'il y a écrit tel mot ici et tel mot ici, donc on va comparer, on va prendre une nouvelle halacha, qui est une halacha qui est Mina Torah. Mais c'est pas écrit explicitement dans la Torah. Rambam, il dit d'après moi, quand c'est pas écrit explicitement dans la Torah, ça fait pas partie des 613 mitzvot. Non, c'est une mitzvah, mais ça fait pas partie des 613 mitzvot.
Un autre principe. Donc tu l'appliques ou pas alors?
Je l'applique, mais ça rentre pas dans le décompte des 613 mitzvot.
Alors pourquoi l'appliquer?
D'accord.
Ça rentre pas dans le décompte.
C'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Je vais vous donner des exemples. Regardez. Encore un autre exemple.
Bah, autant faire ça.
Des fois. Laissez-moi développer. On va donner encore un autre exemple. Par exemple, la Torah, elle te dit, des fois la Torah donne un motif pour la mitzvah. D'accord. Des fois la Torah donne un motif. Par exemple, elle te dit. Qu'est-ce qu'elle va te dire la Torah? La Torah va te dire. Elle va te dire, voilà, par exemple, elle va te dire. Souvenez-vous d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on dit dans la troisième paracha du schéma. Pourquoi souvenez-vous d'Akadosh Baruch Hu? Parce que Ani Hashem Elokechem, Hashem Rotzeti Etrem, mais Eretz Mitzrayim. C'est moi Hashem qui vous a fait sortir d'Égypte. Comme Rachid explique là-bas, il dit sous-entendu, moi quand je vous ai pris, vous voyez rien du tout. Donc je suis venu, je vous ai cherché, donc le minimum que je vous demande maintenant, c'est de vous souvenir de moi. D'accord?
C'est une mise.
Donc on explique deux choses. D'abord, on te dit souviens-toi d'Akadosh Baruch Hu. Après, on te dit, c'est moi Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc peut-être qu'on va être tenté de dire, oui, bah alors le fait de se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah. Faux. Parce que c'était amené en tant que raison. Si c'est amené en tant que raison, ça rentre pas dans le cadre des 613 mitzvot. Je vous donne encore un autre exemple comme ça, rapide. Je pense que c'est pas le but du cours d'aujourd'hui.
Quelle que soit la motivation, elle est pas bonne pour la...
Non, c'est une mitzvah, mais ça rentre pas dans le décompte des 613 mitzvot. C'est un décompte particulier, parce qu'on peut arriver à 2000 sans problème.
Oui, mais celle qui doit faire force et foi...
Non, ça n'a rien à voir.
C'est les 613
en
priorité.
Je reprends, non. Pas
pourquoi,
du tout.
Non?
Parce que c'est pas comme ça. Parce que les mitzvot, c'est les mitzvot. Après, il y a un décompte de 613.
Et s'il y a une hiérarchie entre les mitzvot?
Il n'y a pas d'hiérarchie. Aucune hiérarchie.
Par rapport à ceux qui sont
toutes les mitzvot de la
Torah.
Non, Midarabanan, oui. Toutes les mitzvot ont la même valeur. Je vous donne un autre exemple. Regardez. Par exemple, est-ce que vous savez combien de fois c'est écrit dans la Torah de ne pas manger de reptiles? 7 fois. Enfin, des fois c'est écrit explicitement, des fois un peu moins explicitement. Donc on a envie de dire, ben voilà, tu cherches 613, t'en as déjà 7. Faux. J'en ai qu'une.
Oui, puisque c'est la même
qui est... Pourquoi ? Parce que ça, c'est un autre principe du Rambam. Pas tout le monde est d'accord avec lui sur ce principe, par exemple. C'est-à-dire que pour arriver au compte de 613 mitzvot, c'est très compliqué. La force de Rambam, c'est qu'il a, il a créé des principes, et qu'après, selon ces principes-là, il a réussi à trouver 613. Et vous comprenez que dès que tu ébranles un principe, eh ben tu fais sauter tout le reste.
C'est clair.
D'accord ? Voilà. Maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui, qui ont dit, écoute, ce principe, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc du coup, bah, ça va faire sauter des mitzvot, alors il va falloir en trouver d'autres, etc. C'est la galère.
Il faut arriver à 613.
On veut arriver au chiffre 613. Pourquoi 613 ? On a imposé un chiffre. C'est ce qu'il explique ici. On a imposé le chiffre 613, pourquoi ? Parce que justement, c'est pas totalitaire, mais parce qu'on veut avoir le chiffre 613 pour tout le monde. Étant donné que dans chaque homme, on a le chiffre 613, à savoir 248 membres, 365 passages, d'accord ? Donc des veines. Donc on doit retrouver ce chiffre dans la Torah.
Bah, c'est,
on, maintenant, comment on va les retrouver ? Dans quel mythe vais-je me focaliser ? Ça, c'est une autre question. Mais je dois retrouver le chiffre 613. 613, pas 612, pas 614.
C'est quoi la matière du 613 ?
Tariag. Ça c'est la notion qui explique ici du klal. Du fait que Kadosh Baruch Hu, il a imposé un principe pour tout le monde. C'est quoi le principe ? C'est quoi l'assiette ? L'assiette, c'est qu'il a dit il y aura 613 mitzvot. Tariag. Bon, maintenant va venir le prat. C'est ça ce qu'on va développer aujourd'hui. Alors, je lis dans les mots. Je suis allé un peu rapidement parce qu'on a développé pas mal la semaine dernière. Alors, on va prendre dans les mots. Écoutez, voilà, vous savez, on va passer directement au paragraphe suivant. Veiné, misparzé. Je vous ai déjà expliqué à l'oral. Vous avez le paragraphe suivant ?
Attends, t'as dit quoi, Veiné ?
Veiné, misparzé. Paragraphe suivant.
Oui.
Veiné. Voilà. Veiné, il continue, l'Admor HaZaken, il dit, maintenant, on va développer misparzé, le chiffre qu'on a donné de 613, ou Bederer Klal. Le chiffre 613 qu'on a donné est un chiffre qui est uniquement un chiffre général. C'est-à-dire que dans la Torah, comme ce qu'on a expliqué, ça veut dire qu'on va imposer la même assiette pour tout le monde. Ça, c'est la même assiette, c'est vrai. Mais après, on va te donner la possibilité de la personnaliser. C'est-à-dire qu'il y a le klal, mais derrière klal, de manière générale. Mais après, on va donner la place également au prat. C'est quoi le prat ? Le prat, ça veut dire l'individu, le détail. Et le détail, comment il va se personnaliser ? Le détail va être dans la manière comment il va personnaliser ce que tout le monde a reçu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Mm-hmm. Vous voulez que je repasse une couche ou c'est bon ? D'accord. Alors, ça veut dire que, en d'autres termes, selon la Torah, la manière de personnaliser, la manière d'avoir le prat, c'est en individualisant quelque chose sur lequel on partage toute la même chose. Ça veut dire que si tu as une personne, par exemple, qui va venir et qui va te dire, moi je pense que, je sais pas, qu'est-ce qu'il va te dire par exemple, il va te dire, moi je pense qu'il faut vivre dans la forêt. Tu penses pour lui, il faut vivre dans la forêt, faut pas vivre avec les hommes. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut vivre. La Torah va dire, tu te trompes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un klal. C'est quoi le klal ? Le klal, c'est que pour vivre, on vit dans une ville, d'accord ? On se lève le matin, on dort la nuit, on mange, d'accord ? Il y a des règles, ça c'est les klals, c'est un principe. Ta marge de décision, c'est seulement sur, dans le cadre du klal, comment tu vas vouloir te comporter ? Ça c'est quelque chose de très, je retrouve, c'est une idée magnifique à répéter, surtout aux enfants. Et surtout quand les enfants arrivent à l'âge où ils deviennent adolescents. Et là, des fois, vous allez voir, enfin bon, il y a Rattachel bientôt, il y en a qui sont déjà arrivés, à ce stade-là. On dit que des fois, hein, c'est quoi un adolescent ? Un adolescent, c'est une personne qui a envie de s'affirmer. Ça veut dire quoi de s'affirmer ? C'est-à-dire qu'il a envie de se personnaliser. C'est-à-dire, voilà, toi, papa, tu es comme tu es, maman, tu es comme tu es, moi, je suis ce que je suis. D'accord ? Moi, je suis moi, et toi ?
C'est toi.
D'accord ? On est chacun, donc il a envie de personnaliser. Il a envie justement d'arriver à cette notion de prat. C'est bien, ça, c'est une bonne qualité, ça. Quand t'as quelqu'un qui va toujours suivre ses parents sans vouloir personnaliser, c'est pas bon. Il faut que l'enfant ait cette envie de prat. Mais le rôle des parents, hein, c'est de lui rappeler, de rappeler à l'enfant, de rappeler à l'adolescent, hein, que la permission que tu as de personnaliser, du prat, c'est seulement dans le cadre du klal. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Les règles, c'est le klal. D'accord ? Et toi, dans le cadre des règles qui sont prédéfinies, tu peux dire, bon, je veux personnaliser. Moi, j'ai envie de faire ça comme ça, J'ai envie d'acheter tel vêtement, Mais c'est moi qui décide d'abord quel style de vêtement tu achètes. Après, toi, tu vas décider, bon, je veux un vêtement comme ci, un vêtement comme ça. Ça veut dire qu'il faut bien faire la différence entre le klal et le prat. C'est pas parce qu'on a envie d'arriver à un prat de rentrer dans les détails et de dire j'ai envie de me personnaliser et de m'individualiser, d'être unique. C'est pas pour ça qu'on doit zapper tous les clalines, tous les principes. La notion de prat, la notion d'individualité est seulement tout en gardant les clalines, les grandes lignes sur lesquelles le monde tourne. Quand on a gardé ça, comment le monde tourne, comment une famille tourne, comment, etc. Comment une classe tourne, comment une communauté tourne. Quand on garde le klal, là on peut arriver au prat. Si on enlève le klal, on n'a plus le prat. On est d'accord ? Ça, c'est, j'en ai entendu une fois un cours qui disait que justement les jeunes, ils ont beaucoup de mal avec ça. Beaucoup de mal. Parce que justement les jeunes, comme on a dit, eux ils développent le prat. Donc ils développent l'individualité. Et quand tu lui dis oui mais tu sais, il y a des principes, il ne veut pas les principes. Il est anti-principe.
Il faut un cadre.
D'accord ? Il faut un cadre, voilà. Il faut un cadre, mais il ne faut pas non plus que le cadre, il ne faut pas que mon cadre soit un prat. C'est-à-dire, il ne faut pas que mon cadre soit un cadre où je personnalise chaque détail de sa vie. Parce que ça, l'enfant, il ne veut pas. Il veut lui personnaliser sa vie. Il a envie de réfléchir comme lui, il veut réfléchir. Ça, d'accord. Mais le cadre, c'est moi qui dois le donner. Le clal.
C'est ça.
C'est très dur. Très difficile.
Parce que le cadre, tu peux trop le restreindre.
Eh bah bien oui.
Tu lui laisses plus de place.
Finalement, tu lui as donné un prat.
Oui, c'est ça. Bah oui. Tu lui laisses plus de place pour ce...
Tu comprends ? Par exemple, je lui dis, voilà, je veux que, voilà, cher enfant, je veux que tu mettes une chemise. Bon, après, je lui dis, oui, mais il faut qu'elle soit blanche. Attends, une chemise. Ben, papa, tu me laisses faire le reste. Tu touches pas après. Et c'est là que le père va dire, ok, une chemise, le reste, tu te débrouilles. C'est compliqué, c'est très compliqué. Très compliqué à savoir se retirer. Il faut le faire. Du coca, s'il vous plaît. Peut-être David, il va nous servir un petit peu de...
Ah, c'est moi qui sers aujourd'hui.
Sarah Mashkim.
Exact.
Vous savez ce qu'on dit chez les chassidim ? On dit dans le rêve, il y avait dans la prison... Il y avait le maître Échanson et le maître Panoutier. Les deux, ils ont fait un rêve.
D'accord.
Ouais. Et lequel a été tué ?
Panoutier.
Ah, Panoutier. Celui qui servait le Chaïm, il n'a pas été touché.
Ah, c'est bien net.
Je
savais
pas.
Je
l'ai épargné,
quoi.
Je l'ai pas
fait. Non, mais il m'a dit qu'il y avait du coca.
Oui, mais à côté, tu peux...
Non, d'abord...
Boulanger, il a toujours mauvais rôle. Hein.
Le quoi ?
Boulanger, il a toujours mauvais rôle.
Bon, je suis à ce qu'il reste.
Non, hein. Ah, c'est...
Ah, tu m'as dit bourreau.
Rheim.
Non, tu m'as dit coca, il n'a pas dit. On a terminé
le
clal.
Attends, deux minutes.
Un clal après le prat.
Tu m'as dit que tu voulais de la bourra.
J'appelle la cavalade prendre de. Donc je refais chaque col. Bah, on va donner une première chaque col.
Plus, moi, j'en sais rien, je sais pas comment on gère.
Le Marocain,
il s'est passé là.
Ah, moi, je sais pas. Moi.
Les Marocains d'aujourd'hui, ils aiment le bourra.
Ça va, les Tunisiens, ils aiment le vodka.
Ok, tiens. On continue.
Et tu m'as demandé du lin.
Donc, aval.
Tu peux en rajouter une.
Ah, mais je trouve.
Ah, c'est une notion très. C'est une notion de. Vous voyez, moi, j'ai voulu étudier ce pérec parce que ça va dans la ligne directe de l'éducation qu'on avait étudié dans les chapitres d'avant. Vous savez, Shammai, Hillel, ce qu'on avait expliqué, qu'il y en a qui sont plutôt bons, d'autres qui sont plutôt rigoureux, et qu'on a essayé dans notre éducation de marier les deux aspects avec nous, David. Oui, ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Et là, je vois Mamash toujours dans la même lignée de l'éducation. On retrouve ça, Mamash, ici, dans ce perec, la notion de klal et de prat.
David, prends-moi vite les bouteilles.
Le rabbi, il dit, vous savez, il y a une tira du rabbi. Hein. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est mon bras qui... Ah. Quand c'est trop lourd, j'ai du mal à un moment, je bloque.
Il y a une tira du rabbi dans laquelle le rabbi dit, c'est sur sur l'année de Hakhel. L'année de Hakhel, donc c'était il y a deux ans.
Je t'ai demandé ou pas, Yves ?
C'est bon, tout le monde est servi. Alors, quoi,
toi, tu m'as dit que tu en voulais pas, mais tu m'as demandé quoi ?
Moi, je veux un verre de cognac, c'est toi qui me le sers.
Quand elle sera moins, quand elle sera plus légère, ouais.
J'attends que tout le monde se servi.
Tu sais que même Shabbat, j'ai failli laisser tomber une bouteille. Je servais ma femme, là. Elle était pleine comme ça. Je prends pas envie de visite parce que je vais
te bloquer. Attention, hein, il doit y avoir quelque chose. Il y a peut-être un air qui est.
Ah, non, mais je peux pas. Non, c'est l'amplitude du mouvement et le poids. Je peux pas porter plus de 2 à 2 kg et demi. Après, je tétanise, j'ai le poids qui se bloque.
Il y a
un truc. Je dois faire au cœur et j'ai une prothèse à mettre.
Ok, le Chaïm. Je suis en train de dire qu'il y a une tira du rabbi. Le rabbi parle à propos de l'année de Hakel. Quand est arrivée l'année de Hakel, donc c'était il y a deux ans l'année de Hakel, on sait que les dirigeants, ça veut dire que les dirigeants c'était le roi et le Kohen Gadol, ils avaient un rôle. Ils devaient rassembler tout le peuple. Tout le peuple venait à Jérusalem, exceptionnellement, même ceux qui ne venaient pas d'habitude. C'est-à-dire par exemple. Même les femmes, les enfants, que normalement ils venaient pas pèleriner. D'accord ? Tout le monde devait venir pour l'année de Hakel. En tout cas, on faisait tout son possible pour venir. Et le roi, il devait les rassembler. Le rabbi, il expliquait chaque fois qu'arrivait l'année de Hakel, Il disait que l'importance de Hakel, c'est pas seulement pour le roi. Même aujourd'hui qu'on peut plus faire le Hakel, parce qu'on n'a plus, le Beth Amikdash, mais la notion de Hakel existe toujours. Hakel en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire rassembler, fédérer. Et il dit comme ça, il dit de la même manière que un roi, il va fédérer son peuple, il va rassembler son peuple, que on va avoir un Kohen qui va rassembler les Kohanim et qui va rassembler également le peuple. De la même manière, chacun à son niveau, il est roi. Il est roi de qui? Il est roi de sa famille, par exemple. Enfin, faut espérer. Mais il est roi de sa famille, ça veut dire que c'est un papa. C'est un papa et il est peut-être roi de ses collègues. Quand je dis roi de ses collègues, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont l'écouter quand il va leur faire un Dvar Torah. Donc le rabbi expliquait que quand arrive l'année de Hakel, c'est un moment dans lequel on doit justement se poser la question sur qui on a de l'influence, et les gens sur lesquels on a de l'influence, les rassembler et les pousser à avancer. Pourquoi je vous parle de ça? C'était il y a deux ans. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous montrer que la notion de klal et de prat, c'est-à-dire la notion qu'on a une influence, on a une influence sur quelqu'un, c'est une notion que tout le monde peut avoir à son niveau, même un enfant. Un grand enfant, il a une influence sur un petit enfant. Et la notion se pose toujours... Si j'ai une influence, jusqu'à où doit aller mon influence? Et c'est là ce que te dit la Torah. La Torah te dit ton influence, c'est seulement sur le klal. Toi, tu donnes les grandes lignes. Après, la manière, comment la personne va les utiliser, ça c'est son problème. Ça, tu ne sais pas comment les utiliser. D'accord? Klal et prat. On va développer. I, nemis parze, ou bet derer klal. Je reprends le paragraphe. Ce chiffre-là, 613, c'est un chiffre général. Ça, c'est le klal. C'est les grandes lignes. Aval bet derer prat. Si tu veux rentrer dans les détails, les détails d'Alachot. Iné, kol mitzvah ou mitzvah, mitra leket le pratim rabim. Chaque mitzvah peut se décortiquer en une multitude de détails, les enkets vetachlit, sans fin. Sans fin, tu peux trouver des détails. Je prenais par exemple juste l'Alachot de Shabbat. D'accord? C'est un exemple, des choses qu'on fait tous les jours, parce que Shabbat c'est chaque semaine. Et chaque fois que tu étudies, chaque fois que tu retrouveras des nouvelles nuances et de nouvelles choses, etc. Pourtant, là-bas, il y avait 39, c'est tout.
D'accord. Pour Shabbat, Shabbat c'est combien?
Shabbat c'est une. Une. Parce que toutes les autres, on les a apprises par déduction. C'est une seule. Mmh. Tous les rois de Shabbat, c'est une seule.
Bah oui.
Enfin non, c'est pas, c'est deux. C'est une. Non, c'est deux. C'est une de se souvenir du jour du Shabbat. Et une de respecter le Shabbat.
Voilà, c'est deux.
Ouais. C'est pas exactement les rois de Shabbat, mais c'est ouais. C'est. Et donc ce que je suis en train de dire, c'est que la halakhot de Shabbat, par exemple, tu vois, à la base, combien de travaux il y avait? 39. D'accord. 39 halakhot. Mais quand on voit après le nombre de Mishnayot qu'il y a eu sur ça, et après le nombre de Gemara qu'il y a eu sur ça, et après le nombre de Shulchan Aruch, après le nombre de livres qui ont été écrits sur Shulchan Aruch, etc., ça finit jamais. Là, on a un exemple d'une halakha qu'on a personnalisée. C'est-à-dire qu'il y a eu, on t'a donné les grandes lignes, et après les Chachamim, avec les générations, ils ont personnalisé la halakha. Alors, bien sûr, dans la personnalisation, pas tout le monde était d'accord.
On a tendance à
tromper. D'accord? Pas tout le monde était d'accord. Mais les grandes lignes, tout le monde était d'accord. Par exemple, la Melacha de Tané, c'est Tané. D'accord? Maintenant, quand on va essayer de développer les Toldot, les dérivés de cette Melacha, tu peux aller très très loin. Etc.
Et tout le monde d'accord confond finalement ça.
Confond quoi?
L'état général et les détails. Pour ça, alors, ça embrouille beaucoup.
Bonsoir. Ça va?
Ça embrouille beaucoup de gens. Ça.
J'ai enregistré, hein.
Non, mais il écoutait, en arrivant, il était en train d'écouter en simultané. Non?
Bientôt. La nouvelle technologie.
Ça met jamais. Voilà, t'as bonne mine.
Je dis que tout le monde confond finalement ça. Le détail et l'état général.
Ça n'a rien à voir. C'est pour ça, vous savez.
Ça embrouille beaucoup de.
Quand a, c'est pour ça, c'est important de savoir, quand on a des fois des gens. La notion de Klal et de Prat. Pourquoi on parle souvent de Klal Israël? Klal Israël. Parce qu'on sait que quand on rentre dans le détail, t'as plusieurs communautés. Chaque communauté a sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Et dans chaque communauté, chaque personne a sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Et dans chaque personne, chaque jour, il a une autre manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Etc, etc, etc. D'accord? Seulement quoi? Prends l'appel au clan Israël, parce que sur les grandes lignes, on est d'accord. Sur les grandes lignes, il n'y a pas de Marloquet, Sepharad, Ashkenaz, etc. Il y a pas de... Sur les grandes lignes, tout le monde a la même chose. Tout le monde a le même texte. Une fois qu'on a une fois que tout le monde a le même texte, là ça marche. Dans quoi on va différencier? Dans le prat. Prat, c'est pas grave. Dans le prat, chacun sera différent de toutes les façons.
Parce que dans les prats, tu intègres les dînes des uns et des autres.
Tout, bien sûr. Dans le prat, c'est tout. Il y a le détail, il y a la vie de Ravintel, la manière comment moi je l'ai compris, la manière comment je vais l'appliquer dans ma vie, le temps que je vais mettre pour l'accomplir. Tout est dedans. C'est du détail. Donc ça, il dit ici, la Morazakane, c'est très simple, il dit Enket. Enquête, ça veut dire sans fin. nos limites. Le nombre de détails, c'est nos limites. Le nombre de combinaisons de détails qu'il peut avoir par rapport aux personnes, nos limites. Vehen hen goufe alachot pratiyot shebechol mitzvah she'en la'em mispar. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit le nombre de détails que tu peux trouver dans une halakha, il n'y a pas de nombre. C'est-à-dire que même si tu auras un livre, d'accord, dans lequel on va te dire ça y est, dans ce livre-là, on a tout mis. C'est une série, t'as 30 livres, il y a tout dedans. Tu auras toujours un truc, un rave qui viendra qui dira non, on peut rajouter encore ça, ce sera sans fin. Parce que les détails, c'est sans fin. Comment j'ai katouf comme c'est écrit? Shishim ema melachot em shishim asertot va la mot en mispar em alachot shem shachat en sanalion. Il y a un passage dans Shir HaShirim qui dit la chose suivante. Qui dit, il y a 60 reines et des jeunes filles sans compter. Alors la Gemara pose la question, elle dit, mais ça veut dire quoi? D'abord, c'est qui les jeunes filles et c'est qui les reines? C'est dans Shir HaShirim, vous savez, dans Shir HaShirim tout est crypté, il faut chercher. Alors il dit comme ça, la Gemara dit là-bas, elle dit, c'est quoi Shishimema Melachot? Elle dit, Shishimema Melachot, c'est les reines. C'est qui les reines? C'est les Masertot. Le nombre de traités de Mishnah qu'on a, 60. Pour tout le monde, pour tous les avis, il y aura toujours 60. Par contre, c'est quoi les Alamot? Alamot, c'est les jeunes filles, c'est les enfants, c'est les filles de ces reines. Les filles, en mispar. Ça, la Gemara dit, il y en a sans compter. C'est quoi ces filles? Ces filles, c'est les Alachot. Les Alachot qui se sont basées sur ces Mishnayot. Les traités de Mishnah, t'en as 60. Ça bougera pas. C'est-à-dire que, c'est pas que maintenant, t'as eu un rave qui est venu qui a dit, bon, il y en a 60, allez, moi je rajoute 61. Non, ça bouge pas. 60, 60. 613, 613. Par contre, dans les 60, on va venir, on va te dire, bon, maintenant on va développer. Alors, le nombre d'alachot qu'on va décortiquer de Mishnah, c'est N mispar, ça c'est sans fin. Chez M, Amshachat, Ratson, Elion. Alors il dit, Vechen, ou tiens. C'est bon? Ah, moi je l'utilise, de toute façon je suis là. C'est bon? Ok. Il dit, V'chen ou mamash ben nishmat adam. Alors maintenant il dit, si, puisqu'on a développé cette notion de klal et de prat, on a développé cette notion de klal et de prat dans l'éducation, on a développé cette notion de klal et de prat dans la Torah. Que dans la Torah, il y a le klal, c'est les grandes lignes, et il y a le prat. Le prat, on a dit, c'est le détail, le degré de personnalisation que la Torah me permet dans une mitzvah. Et maintenant il va expliquer, il va dire, c'est exactement la même chose dans les neshamot. Ça, c'est magnifique. On sait que, on dit que toutes nos neshamot viennent de la neshama d'Adam Harishon. Quand nous, en vérité, notre neshama, en vérité, il n'y a pas autant de neshamot. Ça veut dire qu'en vérité, on a tous la même neshama. À la base, on vient tous d'une seule neshama. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre les uns et les autres? Encore une fois, on parle du klal Israël. C'est le fait que quand cette neshama a commencé à rentrer dans cette grande neshama d'Adam Harishon a commencé à rentrer dans le prat, dans les ramifications, là, on a eu des ramifications. Alors, on avait fait un cours une fois sur ça, ça fait très longtemps, ça fait 3 ans, dans le chapitre 38, je crois. Il avait expliqué la chose suivante, une idée magnifique. Il dit, comment ça se fait que des fois, on sent une certaine affinité vers certaines personnes? Il y a certaines personnes avec qui on sent que bon, ça s'accroche pas. Ça ne veut pas dire que je vais détester, mais c'est pas bon. C'est pas ma cam, comme ils disent, hein, excusez-moi. D'accord?
C'est pas ma cam, allez.
D'accord? Mais il y a d'autres personnes avec qui tout de suite ça clique. Comment ça se fait? Et la Morazaka avait expliqué la chose suivante. Il a dit, parce qu'en vérité, on vient tous de la Neshama d'Adam Harishon. Ça, c'est la source. Mais après, il y a eu des ramifications. D'accord? Après, il y a eu des ramifications. Et il y a des ramifications principales. Maintenant, une personne qui se trouve sur la même... Alors après, il y a les ramifications, des ramifications, etc. Comme dans un arbre. Après, il y a les ramifications, des ramifications, des ramifications. Plus je partage la même ramification avec la personne, et plus...
Mon lien sera fort.
Je sens tout de suite j'ai une affinité avec lui. Si je sens qu'il n'a rien à voir, c'est qu'il doit être carrément dans une autre ramification. Si je sens que, j'ai un petit peu à faire avec lui, ça veut dire que bon, il n'est pas dans cette bretelle, d'accord? Mais il est dans la bretelle juste avant. Il a tourné, il a bifurqué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il était quand même dans la même branche. C'est ce qui explique le fait que des fois, il y a des gens avec qui on sent que ça accroche, et des gens avec qui on sent que ça accroche pas. Comment? C'est pas le même type.
C'est pour ça qu'on se retrouve, quand deux chiffres qui se connaissent pas, ils arrivent à se reconnaître dans la rue?
Non, même connaître, pas connaître. C'est pas physique.
C'est une question de feeling.
C'est du feeling.
J'ai compris, mais...
Il y a des gens avec... J'ai compris le feeling. Et c'est pas lié... Quand vous regarderez, c'est pas lié au caractère.
Parce que...
Ça n'a rien à voir avec le caractère.
Parce que tu as rigolé ce matin, quand j'étais à la Martine, quand je suis sorti, je savais plus quel était le numéro. Et je vois un monsieur arriver, je voulais pas lui demander s'il connaissait le bête Lubavitch. Alors,
mais tout va savoir pourquoi je me suis orienté vers ce monsieur. Il m'a dit oui, alors il y a le bateau Babiski juste là au fond de la cour. Vous rentrez, vous allez voir aussi. Voilà.
Et,
non, ma part. Non, moi j'ai ma casquette, j'ai un équipage à ma casquette. Et j'ai dit bon, d'accord.
Vous savez ce qu'il dit le Rabbi Rachav? Le Rabbi Rachav, il a dit une fois un juif qui était un peu.
En France, je suis juif, je sais où c'est.
Un juif, il y a une fois un juif qui est venu voir le Rabbi Rachav, bien émancipé comme ça. Et il est venu le voir. Et bon, il parlait allemand, etc. Enfin, c'était à la mode à l'époque. Et bon, il voulait cacher un peu son judaïsme. Alors le Rabbi Rachav, il lui a dit, tu pourras jamais cacher ton judaïsme. Il lui a dit, tu sais pourquoi? Il lui a dit, tu sais, le Moël, quand il a fait la Mila, il a enlevé le prépuce. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le prépuce?
Il l'a mis sur ton nez.
Sur ton nez? Je sais qu'on l'enterre.
Je raconte. Mais... Non, c'est une blague.
Non, j'ai pas eu peur, je sais que c'est une blague. Mais...
Et il y en a, il l'enterre, et d'autres, il le brûle, c'est ça?
On l'enterre en général.
Bien qu'il le mange.
Alors,
on fait la cause, mais tu connais la cause.
Vrai, nous, maman, je connais Mishmatada. Donc, il dit, il est exactement la même notion de klal et de prat. Bien sûr.
Je le cuisine très bien.
Allez, on reste focalisé. La même notion de klal et de prat qu'on a développée, exactement cette même notion, on va la développer dans, à propos des Neshamot. Qu'il y a une grande Neshama, ça c'est le klal, et après il y a le prat. D'accord, ce que je vous explique alors, on va expliquer dans les mots. Ren ou mamash ben nishmat adam. Alors, il en est de même exactement pour la neshamot de l'homme, dont je suis à la ligne commence ben nishmat. Septième lune depuis le début du paragraphe. Qui iné. Kol la neshamot sheba olam. Toutes les neshamot du monde. Toutes. Ayu klulot be adam arishon. Toutes les neshamot du monde étaient incluses dans Adam arishon. Tout vient d'Adam arishon.
Hommes et femmes.
D'accord. Tout le monde vient d'Adam Arishon. D'accord. On dit que la Neshamot d'Adam Arishon, elle avait en elle toutes les Neshamot. Toutes les Neshamot, même les Neshamot qui ne sont pas encore développées parce qu'il était seul. Tout était en lui.
Ah oui.
D'accord. C'est pour ça que quand on dit que c'est notre père, c'est pas seulement notre père biologique. C'est mamash notre père parce que c'est lui le premier. Et dans sa Neshama, tout était là. C'est aussi la manière comme on explique dans le Zohar. Le Zohar explique la manière suivante, le Midrash. Il y a un Midrash qui dit qu'Adam Arishon, il faisait le tour du monde. Avec son corps, il faisait le tour du monde. Alors, il y en a qui expliquent, qui disent, laissez-moi développer. Ça veut dire quoi le tour du monde? Il y en a qui disent, oui, ça veut dire que il mettait, s'il s'allongeait, d'accord, ses pieds, il touchait sa tête. Il faisait le tour. Le joueur explique qu'il disait pas comme ça. Enfin, peut-être que c'était comme ça dans le pshat. Mais le sens, quand on dit qu'il faisait le tour du monde, ça veut dire qu'en lui, il y avait toutes les neshamot. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'histoires qu'on raconte dans le Zohar, dans le Midrash. Des histoires, on dit par exemple qu'Adam Arishon, il a vu les neshamot jusqu'au fond. On dit par exemple, Adam Arishon, le Zohar, il raconte ça. Il dit qu'Adam Arishon, il a vu les Neshamot de la fin des temps. Il était jaloux.
Jaloux?
Jaloux de nous. Pourquoi? Parce qu'il a dit, avec les épreuves qu'ils auront, je ne sais pas comment ils vont faire. Et ils vont faire, je ne sais pas comment ils vont faire. C'est nous, de nous qui parlait.
Et de lui?
D'accord? Non, oui, de lui. Mais comment il a pu voir ça, Adam Arishon? Alors le Zohar explique qu'il dit, c'était même pas une prophétie. C'est pas une prophétie. C'est parce que c'était en lui. En lui, dans sa neshama, il avait toutes les neshamot. C'est ce qu'on appelle une neshama klalite, une neshama générale. On dit qu'un rabbi, c'est une neshama générale. C'est un assis, c'est une neshama générale. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a des fois certaines personnes qui vont suivre un rabbi et d'autres qui vont suivre un autre rabbi? C'est la même chose. Parce que ça dépend de la ramification. D'accord? Donc t'as un petit rabbi peut-être, c'est lui, il est à ramification, il est déjà assez descendu, donc lui, il va attraper tous ceux qui sont en dessous de lui. Les autres ne sont pas intéressés par lui. Et t'as un rabbi qui est tout en haut, comme notre rabbi, et lui, tout le monde...
Tu parles de quelle âme, Melzi?
Non, Neshamot.
Non, mais tu parles pas de l'âme animale.
Non, l'âme, non, l'âme divine. Nefesh Elokim. D'accord.
On dit qu'elle vient de Dieu.
Plus on explique comme ça, on dit que plus la Neshama du Tzadik est dans une ramification élevée, et plus...
On aurait pu penser que c'était l'âme animale, pourquoi pas?
Et plus il a un impact sur le monde entier.
Il a d'abord fait l'âme...
Oui, mais ça aurait pu être l'âme animale.
Non, c'est l'âme divine.
Mais l'âme divine ne vient pas de Dieu directement?
Oui, elle vient de Dieu directement, mais après il y a eu des ramifications.
En passant par,
justement. Tu comprends? Et t'as des tzadikim qui sont un petit peu en bas, et donc ils vont suivre la ramification qui est en dessous, et t'as des tzadikim qui sont tout en haut. Et eux, ils vont avoir un impact sur tout le monde, sur le monde entier. Ça, comme Adam Arishon. Adam Arishon, il était mamache tout dedans. Ça, c'est un neshama au top. Une neshama klalite. On appelle ça une neshama klalite. Une neshama générale. Une neshama générale. Qui donne le klal.
Mais c'est toujours les mêmes neshamot qui se renouvellent.
Non. Du tout, non.
Non.
Je crois qu'il place les neshamot dans les endroits clés selon les besoins. Et donc, il continue, l'Admor HaZaken, il dit, On va parler d'Adam Harishon maintenant. Qui n'école la Neshamot, Sheba Olam, Ayuklo, Adam Harishon, ça on l'a dit. Derech Klal, Aita Nishmato Nechleket, le Mispar Tariag. Si on prend maintenant la Neshama d'Adam Harishon, qu'est-ce que Adam Harishon connaissait? Il dit, ma Neshama, elle a 613 parties. Elle peut se développer en 613 ramifications. Donc lui, il s'est arrêté à 613. Pourquoi 613? Parce que 613, on l'a expliqué, c'est le chiffre du klal. Dès que tu veux faire un klal, dès que tu veux faire des règles dans la Torah, tu dois arriver au chiffre 613. Pour faire des règles, il faut arriver au chiffre 613. Donc Adam Harishon, il dit, bon, je vais développer. Ok, on développe. Il va développer sa Neshama, il va arriver à combien de ramifications? 613. Lui, il s'arrête là. Parce que le rôle d'Adam Harishon, c'est uniquement de faire le klal. Les grandes lignes. Et les grandes lignes, il n'y en a que 613. Il n'y en a pas une de plus, pas une de moins. Ça, c'est Adam Harishon. Maintenant, après, art derrière prat. Alors, si tu veux rentrer dans le détail, chaque ramification jusqu'à où elle va aller, les nitsotsot, ce qu'on appelle les étincelles. C'est-à-dire qu'après chaque ramification, il y aura des étincelles. Combien d'étincelles tu vas avoir? Sans fin. Parce que ça va dépendre des tas de paramètres qui font que tu vas arriver à des probabilités sans fin. Chacun, il aura sa manière. C'est ça, Vira Kadosh Baruch Hu. She'en neshamot kol Israël, et c'est ça ce qui a formé les neshamot de tout le peuple juif, mimot ha'avot v'ashevatim ad biat ha'mashiach. Depuis les patriarches, depuis nos patriarches et les shvatim, jusqu'à la venue de Mashiach. C'est, dans un autre endroit, l'Admor HaZaken nous dit, c'est la raison pour laquelle aussi, on sait que les neshamot qu'on a aujourd'hui, on est pratiquement tous des gilgulim. On est des réincarnations. Donc si je suis une réincarnation, je me pose la question, je me dis, mais alors, finalement, qu'est-ce que moi j'ai apporté par rapport à la personne qui avait ma neshama avant moi? Parce qu'il y a forcément une personne qui avait ma neshama avant moi, peut-être il y a 50 ans, 60 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, je sais pas quand il l'avait. Qu'est-ce que j'ai de particulier? Encore une fois, c'est le même principe. Ce qu'on a de commun, hein, c'est qu'on a le même klal. On a la même règle générale. Mais après, la personnalisation, c'est chacun qui va personnaliser selon les personnes qu'il va fréquenter, selon la personne avec qui il va se marier, selon le raf qu'il va suivre, selon des tas de choses. Selon les influences qu'il va avoir. Et ça, l'Admor HaZaken dit, ces paramètres-là, c'est enketz, c'est sans fin. Exactement comme ce qu'on expliquait par rapport au halachot. Le prat, il est enketz. Ve'ad bichlal sheyekuyam ad ma shekatuv v'ayam mispar bnei Yisrael kechol ayam asher lo yimod ve'lo yisafer merov. Alors c'est magnifique ce qu'il explique ici. Il dit, on sait déjà que dès le départ, il y avait une première bracha qu'Akadosh Baruch Hu avait donnée à Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, tes enfants, ils vont se répandre comme, ils seront nombreux comme le sable. Bon, on retrouve cette même prophétie dans Hoshéa.
C'est pas pour Agar, dans
Osée. Dans Osée, deux secondes, on va développer. Et dans Osée, on retrouve la même chose. On retrouve que la même chose, il dit que plus on va s'approcher de Mashiach, et plus le nombre de personnes qu'il y aura dans les Bnei Israël sera comme le sable, et là-bas il développe, il s'est fait de quoi comme le sable? Asher lo yimod, qui ne pourra pas se mesurer, velo yisafer, il ne pourra pas se quantifier, merov tellement il y en aura. Alors la question qu'on se pose, on dit, mais de quoi
on
il parle?
Si nombreux que ça.
On n'est pas si nombreux que ça, d'abord ça peut se quantifier. Ça peut se quantifier, tout peut se quantifier. Si tu ne sais pas quantifier, c'est que tu n'as pas les bons outils, c'est tout. Tout peut se quantifier. Ça veut dire quoi quand il dit ici que Israël sera tellement nombreux qu'il ne pourra pas quantifier? Avec la notion qu'on a expliquée, on comprend. Qu'est-ce qui ne pourra pas se quantifier? C'est pas le nombre de personnes. C'est le nombre de détails. Parce que chaque personne, il peut avoir des tas de manières comment il va servir à Kadosh Baruch Hu dans sa propre vie. Dans la même journée, le matin, c'était comme ça, l'après-midi, c'est comme ça, le jour, c'est comme ça. Le nombre de détails qu'il peut y avoir, ça, c'est quelque chose qui est infini comme le sable cassant la mer. C'est ça ce qu'il voulait dire. Et plus on va s'approcher de Mashiach, et plus on va rentrer dans les détails, les détails, les détails, les détails.
On dit bien, et le nombre des enfants d'Israël, et le nombre, c'est bien, on parle bien de.
Justement, ça explique ici. D'accord, c'est qu'il dit qu'on parle pas en vérité du nombre. Quand on dit le nombre, en vérité, on parle de la manière comment ça va être développé. C'est-à-dire que moi, en vérité, les Neshavot, il y en a 600 000. Les Neshavot, il y en a 600 000. Qui sont basés sur 613 branches. C'est tout, c'est simple. Quand tu vois la Kabbalah, c'est très simple. 613 branches, Adam Harishon, ces 613 branches ont donné naissance à 600 000 Neshavot. Pas une de plus, pas une de moins. Mais le problème, c'est quoi, hein?
Si tu cumules toutes les générations.
Alors, il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est que d'abord, tu as les réincarnations. En plus, chacune de ces 600 000 Neshamot, elle peut se découper en des étincelles.
Bah oui.
D'accord, donc tu n'arrêtes jamais. Mais ça veut dire qu'on a démarré d'un klal, mais quand tu rentres dans le prat, nos limites, ça ne s'arrête jamais.
Alors, avec le machin, concrètement, il n'y aura que 600 000 âmes qui vont être sélectionnées.
Non.
Et les autres.
Mais non, c'est 600 000 Neshamot générales. Pareil, après il y a des ramifications, parce qu'après c'est les étincelles.
Donc tu intègres toutes les
étincelles. Vous prenez, regardez. C'est quoi une étincelle?
La femme, c'est la crème.
On peut faire un nombre infini d'étincelles.
Parce qu'on est, en gros, à travers le monde, on est grosso modo
13 millions environ.
D'accord, bon, 15 millions, oui. C'est-à-dire que ces 15 millions-là.
C'est en vérité 600 000 Neshamot. Je vais vous dire plus que ça. Il est fort possible que ces 13 millions sont basés que sur 100 000 Neshamot. Parce que c'est très possible qu'en vérité il y a même 555 000 Neshamot qui ont déjà fini leur boulot. Donc ils sont même pas redescendus. Et nous, les 13 millions qu'il y a ici, c'est la ramification de ce qui reste.
Aux 100 000 restants.
Ça n'a rien à voir avec le. C'est juste la ramification de ce qui reste.
D'accord.
Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le 600 000. On sait qu'il y a 600 000 Neshamot qui sont descendus. D'accord. On sait aussi qu'il y a des Neshamot qui sont descendus tard. Par exemple, le Baal Shem Tov a dit sur la Neshama du Admor Hazaken. Il a dit que l'Admor Hazaken, quand il est descendu, il a dit que c'est une Neshama neuve.
Neuve.
Nous, on est des Neshamot d'occasion. On a du kilomètre
derrière. Recyclés.
On a repris le moteur ici, les portes ici, d'accord. Mais l'Admor Hazaken, lorsqu'il est venu au monde, sa Neshama était neuve. Parce qu'il avait expliqué comme ça le Baal Shem Tov, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a placé des tzadikim dans chaque génération, selon le besoin de la génération. C'est possible que dans la génération, on ait une Neshama neuve aussi. On ne sait pas qui est Neshama. Là, le Baal Shem Tov l'a dit, les autres, on ne sait pas.
Et tous les tzadikim, c'est des neufs ou d'occasion?
Pas forcément. Ouais. Sur le...
Première main, deuxième.
Par contre, le Mashiach, il a une Neshama générale. Parce que rappelez-vous, le Mashiach, c'est comme Adam Harishon. Il doit être capable de reprendre tout le monde. Il doit être tout en haut de l'arbre, sinon ça ne marche pas.
Ah oui.
D'accord ?
Donc, le Mashiach à chaque génération. Est-ce que c'est une Neshama de Mashiach qui revient à chaque fois ou c'est
la Neshama de Mashiach. Ah, pareil, dans sa Neshama aussi, tu peux trouver la ramification.
Tu disais pour une
étincelle.
Les Neshamot neuf, mais comme ils descendent de Adam, elles ne peuvent pas être neuf complètement.
Alors, oui, j'ai compris. Neuf, ça veut dire. Non, parce que. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Parce que, à la base, tu as 613 ramifications. Ces 613 ramifications vont créer 600 000 âmes. Pas une de plus, pas une de moins.
D'accord.
600 000 âmes. D'accord. Mais dans ces 600 000 âmes, quand tu rentres dans les détails, tu vas trouver beaucoup, tu vas trouver un nombre infini de détails.
Quand tu dis une Neshama neuf, par exemple,
ben, ça veut dire qu'une des 600 000. C'est-à-dire que c'était une ramification des 600 000 qui n'était jamais sortie.
D'accord.
Alors, et d'ailleurs,
pourtant,
on dit que pourquoi un chef prend un rabbi, pas seulement chez les chassidim, on l'appelle un nassi. Pourquoi on l'appelle un nassi?
Il fait des miracles.
D'accord. Très simple, on dit nassi, c'est les rachetés vœux de Nitzutso, Shel, Yaakov Avinu. L'étincelle de Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, lui aussi, il avait une Neshama générale. On dit qu'Yaakov Avinu, il était comme Adam Harishon. C'est pour ça qu'il avait le vêtement d'Adam Harishon, etc. Toute l'histoire avec Yaakov Avinu. Il avait une Neshama générale. Klalit. C'est pour ça qu'il y a comme Avinu, c'est pas comme Avraham et Yitzhak, que eux, ils avaient, un, il était plutôt bon, l'autre, il était plutôt rigoureux. Yaakov, il a tout couvert. Il couvre tout. Parce que Yaakov, il avait une Neshama générale. Bon. Enfin, on va pas trop s'arrêter dessus, mais c'est ça la notion que je voulais développer. Et la notion que je voulais développer, c'est que jusqu'à qu'on arrivera à Mashiach, on développera un maximum de détails. C'est-à-dire que notre rôle aujourd'hui, c'est de personnaliser le Neshamot. C'est pour ça que quand dans une famille, tu vas avoir un enfant qui va se personnaliser comme ça, un enfant qui va se personnaliser comme ça, c'est très très bien, c'est une bracha. Parce que notre rôle aujourd'hui, justement, c'est comme les grains du sable, de développer une multitude de détails. Les généralités, on les a déjà, ça y est, tout est déjà sorti. Les grands chiffres, les grandes lignes, on les a déjà. On n'est pas là pour inventer la roue, elle existe déjà. Mais par contre, on est là pour améliorer le concept. Pour essayer de voir comment je peux rajouter ici, comment je peux rajouter.
D'accord. Alors, question, est-ce que... Parmi les détails qu'on doit mettre les uns et les autres en œuvre, en personnalisant notre personnalité, est-ce qu'on les fait par rapport aussi aux caractéristiques, aux midotes des patriarches,
bien
des
sûr, matriarches, hein,
et tous ces adikim-là?
Je te saurais pas.
C'est-à-dire qu'on doit prendre, on doit tous aller vers les qualités qu'ils avaient eux.
Non, on va être guidé de toutes les façons naturellement.
Mais inconsciemment.
Inconsciemment, oui, c'est sûr.
Si on reprend les qualités de Moshe Rabbeinu, de Yaakov Avinu,
on se base sur des acquis. On ne réinvente pas la roue.
D'accord.
C'est déjà, on se base sur les acquis des autres. D'accord. C'est la raison pour laquelle je pense avec ça, ça peut manger une autre question. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ils disent mais comment le rabbi peut dire, hein, et comment même beaucoup de tzadikim disent aujourd'hui, de plus en plus, que notre génération est la génération qui va accueillir Mashiach. Pourtant, on a l'impression qu'on est tellement loin. On est tellement loin que le Ham Israël, t'es une majorité qui n'est même pas religieux. Donc on se pose la question, on dit mais comment tu peux dire que c'est nous qui allons accueillir Mashiach? La réponse est très simple, encore une fois. Parce que les ramifications ont déjà été faites. D'accord? La majorité des détails ont déjà été trouvés. Nous, maintenant, on doit chercher les derniers détails qui restent.
Pour compléter le puzzle.
Comme leur habitude de nettoyer les derniers boutons. Ça veut dire que le reste est déjà propre. Donc c'est pas grave. C'est déjà propre, c'est bon, c'est propre. Maintenant, Kadosh Baruch Hu envoie des gens et dit, voilà, toi, tu vas t'occuper, il faut que tu cherches ce détail. Voilà. On va te diriger vers ce détail, il faut que tu cherches ce détail. Donc c'est pour ça qu'avec ça, on comprend comment, d'un côté, on va avoir l'impression qu'on est très loin, parce que le boulot a déjà été fait. C'est pas à nous de le faire, on doit pas réinventer la roue. Mais d'un autre côté, on est très proche. Mais c'est ça, il faut être en haut pour le voir. Nous, en bas, on dit, mais attends, on est très loin. Comment on va faire?
Faut regarder derrière.
Faut regarder
derrière ou devant?
Oui, il faut se baser sur les acquis. Faut voir sur tous les acquis qu'on a eus. Avec tous les acquis qu'on a eus, on a déjà développé.
Mettre un rétro à gauche et à droite.
Non, on fait rien, ça vient.
Tu peux imaginer ça comme dans une famille. Une famille, regarde, une famille qui a un père qui a lancé un concept. Il a lancé un concept, il a fait un gros business. D'accord? Ensuite, il est parti, il est mort, et il a légué le business à son fils. Alors, son fils, il va se dire, bon, comment je peux améliorer le business? Et il va améliorer, comme ça, 10 générations, 20 générations. Et chaque enfant, il va améliorer. Le dernier, celui qui sera en 20e position, il fera plus rien. Il ne restera que quelques tout, parce qu'on a déjà pensé à tout. Alors, nous, on va venir le voir, on va dire, ouais, mais t'as rien fait, t'es nul. Quoi, t'es nul? Oui, je suis pas nul, je me base sur les acquis d'avant. Et c'est pour ça que j'ai la meilleure boîte qui puisse exister, parce que je me base sur un acquis de 20 générations. Ça, c'est la même chose de l'âme Israël. On se base sur des acquis. Donc, puisqu'on se base sur des acquis, on est au top en vérité. Là, on est en train de chercher les derniers petits détails. Comme le rabbi, il l'a répété dans les dernières années, le rabbi précédent disait que qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est seulement nettoyer les boutons. C'est comme t'as une veste, alors on a nettoyé, etc. On a repassé. Après, la dernière chose, c'est comme pour les rois, on nettoie le bouton. Mais le rabbi, il a dit, à force de nettoyer le bouton, on va l'abîmer. Ouais. D'accord. Et non, justement, le rabbi disait, il parlait à Kadosh Baruch Hu, il disait, ça y est, ils sont propres, les boutons. Ouais. Et tu veux, il dit, non, il y a un comme petit tâche là-bas. On n'est pas prêt encore pour lancer le produit. Vous savez, les gens qui sont perfectionnistes, il ne voudra pas lancer le produit tant qu'il n'est pas sûr qu'il est clean à 100%.
Le rabbi qui a dit ça à Kadosh Baruch Hu.
Que quoi? Si, bien sûr.
Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, ça y est, les boutons.
Bien sûr. Le rabbi, c'était une fois le rabbi d'informer quand il parlait à Kadosh Baruch Hu, il a amené le chida souvent. Le chida, il dit, il faut exiger, ma chère. Le rabbi, c'était un grand chidouche, ça, parce qu'il y a beaucoup même qui ne comprenaient pas. Comment on peut exiger quelque chose à Kadosh Baruch Hu? Le chida, il dit ça. Le chida, il dit qu'il faut exiger à Kadosh Baruch Hu. Le chida, il a même un chidouche encore plus fort. Il dit que par le fait même qu'on attend Mashiach, qu'on montre à Kadosh Baruch qu'on attend Mashiach, ça même c'est déjà un mérite suffisant pour qu'il nous envoie Mashiach. Un très grand chidouche. Bon, on va pas s'écarter du sujet.
Non, on est en plein dedans.
Donc, le klal, le prat. Le klal, c'est la grande échama d'Adam Harishon. Progressivement, on rentre dans le prat. Et le prat, comme il expliquait, c'est comme les grains du sable, c'est sans fin, ça s'arrêtera jamais. Parce que chaque neshama, elle va se développer, et t'as comment elle va se développer aujourd'hui, comment elle va se développer demain. Le nombre de prats que tu vas trouver, c'est nos limites. Donc, on a compris maintenant la manière de voir les choses dans la Torah sur la collectivité par rapport à l'individualité. Que d'un côté, on a dit, il faut des règles générales, 613, qui vont donner 600 000. Mais d'un autre côté, quand on est parti sur les règles générales, alors là, quand on va développer, on va arriver à une multitude de détails sans fin. Et continue. Ad biat amashia. Alors. Et Iné, souffre de Yaakov. Vous avez Iné? Alors, je fais 4 lignes avant la fin de la page. Iné, souffre de Yaakov, mais en souffre de Adam Harishon. Je vous ai dit que Nasi, c'est quoi? C'est la rachat d'avot de Nitzotso, Shel, Yaakov, Avinu. D'accord? Et je vous ai dit qu'il y avait un rapport entre Yaakov, Avinu, il y avait un lien particulier, une affinité entre Yaakov, Avinu et Adam Harishon. Pas Avram Avinu. Yaakov, Avinu et Adam Harishon. Pourquoi? Il explique. Il va expliquer comment Yaakov et Adam Harishon, la particularité commune qu'ils avaient les deux, c'est que les deux, ils avaient une neshama qui était particulièrement clalite, générale. Il explique comment. Veine. Choufre de Yaakov. La Gemara a dit que la beauté de Yaakov était mais en choufre d'Adam Harishon. Physiquement, c'était comme ça. On dit que Yaakov, physiquement, il ressemblait à Adam Harishon. D'accord? Ils avaient la même tête. On dit qu'ils étaient très beaux, ils avaient un visage qui était extrêmement lumineux, et que Mamash était assis mais prendre, ils avaient la même tête. Non, le Zohar l'explique, il dit, quand on dit qu'ils se ressemblaient, c'est pas seulement qu'ils se ressemblaient physiquement. C'est qu'ils se ressemblaient aussi dans la Neshamot. Alors comment on voit ça? Il dit, c'est très simple. On va prendre Adam Harishon. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam Harishon? Adam Harishon, ce qu'on sait, c'est qu'on lui a donné une mission, mais malheureusement, Adam Harishon, il a fauté. Il a fait une faute pour laquelle on paye jusqu'à maintenant. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il est venu pour faire le tikkun de la faute d'Adam Harishon. Et c'est seulement une personne comme Yaakov Avinu qui pouvait le faire. Parce qu'il fallait une échama. Vous comprenez le problème ? Il faut une échama qui est en haut de la ramification, qui est en haut de toutes les ramifications. Parce que si tu prends une échama qui est de bas niveau, dans ce cas-là, elle va réparer ce qu'elle a en dessous d'elle, mais elle ne peut pas réparer ce qu'elle a au-dessus d'elle. La seule personne qui pouvait le faire, c'était Yaakov Avinu. Alors on va lire dans les mots, c'est du Zohar. Choufré de Yaakov, mais choufré d'Adam Harishon. Ça, c'est basé sur la Gemara Baba Metzia. Mais c'est, le Zohar, il développe que la beauté de Yaakov ressemblait à la beauté d'Adam Harishon. Ça veut dire quoi hein? Numéro 1. Chez Tiken et Tret Adam Harishon. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été metaken, il a arrangé la faute d'Adam Harishon. Comment il a fait techniquement? Alors ça, il ne développe pas ici. C'est le Zohar qui explique. Il dit comme ça. Il dit, pour comprendre comment Yaakov Avinu a réparé la faute d'Adam Harishon, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'a fait la faute d'Adam Harishon. Quelles étaient les conséquences? Le Zohar dit, c'est très simple. Lorsque Adam Harishon a fait sa faute, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le monde est devenu beaucoup plus matérialiste. Avant qu'Adam Harishon a fauté, le monde était beaucoup plus spirituel. Quand Adam Harishon a fauté, Neshama Klalit, comme c'est une Neshama générale, donc il a automatiquement, l'impact de cette faute va impacter tout le monde, toutes les Neshamot, il les a rendus beaucoup plus matérialistes. Ok, bon, d'accord. Si tu dis, j'accepte. Comment Yaakov Avinu a réparé ça? Très simple. Yaakov Avinu, il a reçu les brachot. Mais pour recevoir les brachot, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a eu une ruse.
Ah oui.
Et tous les mefarchim posent la question, ils disent, mais pourquoi il a dû ruser pour obtenir une bracha? Je veux dire, c'est du vol. C'est la source qu'il a fait. Comment ça se fait? On dit, c'est très simple. Pourquoi Yaakov Avinu était obligé de le faire? Parce que, lorsque Adam Harishon, il a fauté. Lorsqu'il a fauté Adam Harishon, il nous a rendu matérialiste. Mais Adam Harishon, il a fauté avec quoi? Avec le serpent. Le serpent, il est rusé. Le serpent, il a récupéré des étincelles. Ces étincelles se trouvaient dans la ruse, ils étaient bloqués. Il fallait une personne du même niveau qu'Adam Harishon, donc une échama générale, qui vienne. Il était obligé de récupérer ses brachot par la ruse, puisque les brachot ont été pris par celui qui était rusé. Donc c'était, en vérité, quand Yaakov Avinu a pris les brachot, c'était la contrat, on était en vérité ici en train de récupérer ce que le serpent avait pris à Adam Harishon. Comme ça explique le Zohar. Et donc c'est pour ça qu'Yaakov Avinu était obligé, et Yitzhak il a chopé, c'est clair qu'il a chopé, il a dit... La voix est la voix de Yaakov et les mains sont les mains de Esav. Il a compris que ce qui est ton parent. Moi, si j'étais à la place de Yitzhak, j'aurais dit, attends, appelle-moi. Si tu dis que t'es Esav, appelle-moi ton frère Yaakov, je veux voir les deux ici. Et après, on discute. Il n'a pas fait ça. Parce qu'il a compris que... Il savait où il allait. D'accord, il a... Bon, pourquoi? Parce qu'il fallait que ça passe par la ruse. En plus, quand on lit les Rashi là-bas, c'est très bizarre parce que à un moment, il lui pose la question, il lui dit, est-ce que c'est toi, mon fils, Esav? Il lui dit, moi, je suis. Esav est ton aîné. Alors ça donne, moi je suis Esav est ton aîné. Donc celui qui a entendu dit oui, moi je suis, ça veut dire que moi je suis Esav ton aîné. Mais en vérité, c'est pas ce qu'il a dit. En vérité, il faut mettre une virgule. C'est malhonnête. C'est clairement malhonnête.
C'est trompé.
D'accord, ça s'appelle
trompé. Le père n'était pas dupe, hein, il les connaissait. Hein. À la voix.
Mais c'est malhonnête.
Le cours de Shabbat est 10 jours.
C'est quoi?
Le cours de Shabbat est 10 jours.
Exactement, ouais. D'accord. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Le chidouche qu'il y a ici, c'est qu'on dit qu'en vérité, pourquoi il était obligé de faire ça? Il était obligé de faire ça parce qu'il devait récupérer les étincelles qui étaient parties chez le serpent. Et la seule personne qui pouvait faire, c'est Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, il avait une neshama qui était générale, comme la neshama d'Adam. Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? On voit que c'est même pas lié à ses parents. Parce que ses parents, ils n'avaient pas une neshama générale. Ils avaient une neshama qui était générale, mais pas aussi générale, pas aussi haute, pas aussi générale que la neshama d'Adam Harishon. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la famille. On peut avoir une personne qui vient de nulle part et qui te sort, grande neshama. Il n'y a nulle part, ses parents étaient tout en bas. D'accord, lui il arrive, il a une échama qui est tout en haut. Possible. Voilà pourquoi Yaakov Avinu a fait ça. Alors, ça c'est grâce à quoi? Grâce au fait qu'Yaakov Avinu, sa échama était incluse de toutes les échamas d'Israël. Sa échama donc était tout en haut.
D'ailleurs, Yaakov, son jeune prénom, c'est Israël dans les textes.
Exactement, oui, bien sûr.
Donc c'est lui qui a fait.
Ça c'est ce que dit le. Ok, alors on continue. Alors.
Alors, quand on a dans les textes Israël au lieu de Yaakov, c'est-à-dire que là, on intègre le clan, et quand c'est Yaakov, c'est à titre individuel?
C'est, pardon.
C'est ça?
Désolé, j'ai pas écouté.
Dans les différents prières, les psaumes qu'on a, on a soit le terme Israël, soit on a le terme Yaakov. C'est-à-dire, quand on utilise le terme Israël...
C'est un autre sujet, ça.
C'est quoi?
La notion de Israël, c'est plus futuriste, comme Mashiach. La notion de Yaakov, c'est plus galoudique. Mais bon, c'est un autre sujet.
On n'intègre pas ces deux dimensions non plus.
C'est pas le but du coup. C'est un sujet intéressant, mais c'est pas le.
On aurait pu penser effectivement, ça peut intégrer les deux dimensions.
Bah oui, parce que non, c'est pas les deux dimensions. Non. Parce que Yaakov, nous, c'est un neshama, c'est une neshama qui est générale. Et c'est pour ça que c'est un neshama en vérité couvre tout, couvre l'exil et Mashiach. Quand on va la dynamique, notre dynamique à nous, c'est d'aller de Yaakov vers Israël. Israël, c'est Mashiach, c'est notre état quand Mashiach arrivera. C'est pour ça que même Yaakov Avinu, dans sa vie, contrairement aux autres patriarches, qu'une fois qu'on leur a changé de nom, et on ne les a plus appelés par le nom d'avant, le prénom d'avant, Yaakov, des fois on l'appelait Yaakov, des fois on l'appelait Israël. Même après. Pourquoi ? Parce que Yaakov, c'est quand il était en mode galout, Israël, c'est quand tout allait bien. C'est quand il était en mode libération, en mode futuriste. Mais bon, c'est un autre sujet, c'est une parenthèse, j'ai pas envie d'ouvrir maintenant. Alors, une petite parenthèse, puisque on a envers une parenthèse. Il y a un Midrash qui dit, il pose la question, il dit, comment ça se fait qu'Adam Arishon a fauté ? Pourquoi Adam Arishon a fauté ? Et il dit comme ça, il dit, parce qu'Adam Arishon, il a vu deux et il a pas vu trois. Alors, on a posé une question.
Il a vu deux et pas trois.
Écoutez, laissez-moi développer. Il a vu deux, il a pas vu trois. Alors, lorsque l'Admor Hazaken, il était à Shklov, dans la ville de Shklov, et qu'il a rencontré là-bas les Talmidei Chachamim, ont posé la question, il a dit, comment vous comprenez ce Midrash ? Il a vu deux, il a pas vu trois. Et il dit, qui deux, qui trois ? De quoi on parle ? Alors, l'Admor Hazaken, il a répondu, je vais répondre à la question avec un autre Midrash. Enfin, c'est une Mishnah. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit qu'une personne doit toujours se rappeler de trois choses. Toujours. D'accord ? Il faut se rappeler, mais Aïn Bata, d'où tu viens, d'accord ?
Qui tu es ?
Ou les Anata Olech, où tu vas ? Velifinemi Atati Vidani Vihashbon, et devant qui tu devras donner compte ?
C'est Pirkei Avot, ça.
D'accord ? C'est Pirkei Avot. Ça veut dire que toujours trois choses. Toujours d'où je viens, où je vais maintenant, ça veut dire à moyen terme, et à très long terme, à qui je devrais rendre compte. D'accord ? Alors il dit, l'Admor Hazaken, il a expliqué, il a dit, Adam Arishon, il lui manquait un des trois.
Lequel ? Le deuxième.
Non, le premier. D'où je viens,
bien sûr.
Parce que d'où je viens, il sait d'où il vient. D'accord ? Il sait d'où il vient. Parce qu'il sait qu'il a été créé par Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qui lui restait ? Il lui restait que les deux. Où je vais et à qui je vais rendre compte. Et ce qu'il explique ici, justement, c'est que pourquoi Adam Arishon il a fauté ? Parce que justement, il n'était pas capable d'apprécier qu'est-ce que ça veut dire d'où tu viens. Pour lui, d'où je viens, mais presque il se prenait pour Akadosh Baruch Hu.
Le deuxième,
parce qu'il a été créé, il a été créé par Akadosh Baruch Hu.
Il est venu de rien.
D'accord. Oui, mais il n'est pas venu. Nous, on est venu de rien. Nous, on est venu d'une goutte. D'accord.
Oui, je comprends, mais quelque part, tu te dis, je suis venu, tu vois, tu peux te retourner vers toi. Adam, vers qui ? Il ne peut pas se retourner.
Donc, il n'y a rien qui va le calmer.
D'où il vient, c'est difficile à.
Moi, quand je vais me calmer, je vais me dire, attends, regarde d'où tu viens. Tu viens d'une goutte, c'est rien du tout. Mais Adam Arishon, il vient,
il est d'Akadosh Baruch Hu.
Il vient d'Akadosh Baruch Hu.
Voilà.
D'accord ? Alors, on est en train de dire, messieurs, on ne peut pas se permettre de couper comme ça. Il faut qu'on garde le fil du sujet. On mettra des pauses pour les questions. Alors, ça, c'est chose numéro 2. Il va rajouter aussi autre chose. Il va dire qu'Adam Arishon, il était. On va finir dans les mots. Ve'iné. Vous avez ve'iné ? Je vais reprendre dans les mots ve'iné. 4 lignes avant la fin de la page. Ve'iné. Choufre de Yaakov, ben choufre d'Adam Arishon. La beauté de Yaakov. Nous dit la Gemara, était comme la beauté d'Adam Arishon. Ça veut dire quoi ? En clair, ça veut dire quoi ? Numéro 1. Chez Tiken Chet Adam Arishon. Yaakov, il a arrangé, il a fait un tikkun pour la faute d'Adam Arishon. On a expliqué comment, parce qu'il a pris par la ruse, etc. Pourquoi on a choisi Yaakov pour le faire ? Pourquoi Abraham ne pouvait pas le faire ? Ve'aita Nishmato Gamken Kloula Mikol Neshama Tchubi Israël. Parce que c'est uniquement la Neshama de Yaakov qui était une Neshama le plus klal possible, le plus haut possible. Me'olam ve'ad olam. Il avait toutes les neshamot. Me'olam ve'ad olam, ça veut dire de A jusqu'à Z, du monde jusqu'au monde. Ça veut dire depuis la création du monde jusqu'à Mashiach. Tout dans sa neshama, il y avait le clan de toutes les neshamot. Mais pas seulement ça. Ve'aya merkava les Torah chez les mala chez Nikred b'shem Adam. On va faire encore un élément. On va s'arrêter ici sur ça. On dit que de la même manière, Adam Yaakov Avinu était comparé à une merkava. C'est quoi Merkava ? Merkava, c'est un char.
Un char.
Ça veut dire quoi un char ? Un char, ça veut dire, on dit que Adam Arishon, la Torah est appelée Adam. La Torah est comparée à Adam Arishon. Pourquoi ? Parce que de la même manière que Adam Arishon, en lui, il a toutes les Neshamot, de la même manière, dans la Torah, on trouve tout. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, lui aussi, on l'appelait, lui, on dit que c'est quoi le Inyan de Yaakov Avinu ? Yaakov Avinu, il était Yoshev Oalim. Ça veut dire quoi Yoshev Oalim ? Et qu'est-ce qu'il faisait dans les tentes ? Il étudiait la Torah. Yaakov, c'est le symbole même de l'étude de la Torah. Quel rapport avec la Torah? Parce que c'est exactement le même concept. De la même manière que la Neshama d'Adam Harishon est une Neshama qui englobe tout, de la même manière, la Torah est quelque chose qui englobe tout. Tout se trouve dans la Torah. Tout est dans la Torah. D'accord? Comme il dit le Ramban, l'Armané dit, Leika mila de l'ar mise boraita. Il n'y a aucune chose dans le monde qui n'est pas écrit, du moins en allusion, dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le klal du monde. Et nous, notre rôle, c'est de développer le prat. Une fois qu'on a bien compris ce principe-là, maintenant on comprend la notion de la place qu'on doit accorder au klal et la place qu'on doit accorder au prat. D'accord? Alors, bon, on peut développer encore longtemps sur ça, mais c'est déjà l'heure. Alors, on Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. Ah, et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, attendez, donc Pourim, c'est non, c'est bon. D'accord? Donc, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va tirer un enseignement concret dans la vie de tous les jours pour nous. Parce que bon, là, c'est pour l'instant, c'est théorique. D'accord? On a dit klal, prat, mais pour l'instant c'est théorique, on n'est pas entré vraiment dans les détails de notre vie de tous les jours. On va donner des exemples concrets de la vie de tous les jours, et on va expliquer comment des fois dans notre vie on aura des conflits entre le klal et le prat, et qui on doit faire passer en priorité, et comment on doit faire passer en priorité. Bien sûr, la réponse est qu'il faut les deux. Il faut le klal, mais après on va développer ça de manière concrète, on va rentrer dans les détails. Voilà,
mais pourquoi l'image du char?
L'image du char, parce que le char, il est l'image... L'image, je vais vous expliquer des fois, je peux pas toujours m'arrêter pour toutes les questions, mais
non, j'entends bien.
Si vous voulez, vous pouvez écrire des questions et après le faire avec plaisir.
D'accord, très bien. Bah,
quoi? Non, pas du tout, au contraire.
Hein? Non, moi j'adore les détails.
On avait quelqu'un avant
dans les détails. Moi, je suis très perfectionniste. Alors. Merci.
Il remplace quelqu'un.
C'est qui? Non, mais dis, c'est pas grave, je remplace qui?
Non, merci.
Je remplace qui?
Il y a quelqu'un avant qui est plus là, qui mais c'est bien, mais c'est le contraire, c'est bien.
Que je le connais.
Peu importe.
Ouais, c'est pas grave. C'est pour la chenard.
Non, au contraire.
C'est-à-dire, il y a le klal et le prat. Pour le prat, après le coup.
Alors, je vais vous expliquer. Pourquoi le char? Parce qu'on dit que le char, c'est comme un volant, une voiture. Je prends un volant, je tourne le volant, je tourne à droite. Est-ce que le volant il a un libre arbitre? Te dire non. Il a pas, parce que c'est un outil. On dit de la même manière, c'est un outil. C'est-à-dire, tu le fais avancer, il avance. Tu arrêtes de le faire avancer, il arrête d'avancer. On dit que les patriarches, ils étaient tellement.
C'était les quatre roues, les patriarches de char.
Alors justement, les patriarches, ils étaient tellement annulés à Kadosh Baruch Hu qu'ils étaient comme un outil dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu dit on tourne, et moi je dis attends, je vais réfléchir, ok, je tourne.
Mais c'est
presque comme un volant. Ça veut dire que
dans le char il y avait pas
quatre roues.
Il y avait quatre roues, donc Abraham, Israël, Jacob
et Rachel.
Rachel c'est la quatrième, qui est la quatrième.
Quatrième, ouais.
Alors qui tirait ce char-là? C'était des chevaux?
Non, c'est une image. L'image de la Merkava, c'est pour dire que c'est un outil. Et que quand Akadosh Baruch Hu, il leur dit bon, je vous tire.
Parce que
c'est
même pas que Jérémy fait une super description.
Oui, l'image du char, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est de dire qu'ils étaient tellement annulés et tellement annihilés à Akadosh Baruch Hu qu'ils avaient même pas de. C'est pas que nous, par exemple, quelqu'un me demande quelque chose, même si je vais l'écouter, c'est un grand rage, je vais l'écouter, mais j'ai au moins un laps de temps dans ma tête dans lequel je me dis bon, je le fais. Ça veut dire que tu peux pas dire que c'est comme un volant, que le rave il a tourné et j'ai tourné. J'ai quand même eu une certaine réflexion. Eux, ils étaient tellement annulés à Kadosh Baruch Hu que Kadosh Baruch Hu il dit on fait. Ça, c'est la notion de Merkava. D'accord. Mais moi, ce que je voulais développer aujourd'hui, c'est surtout la notion de klal et de prat. Comment on retrouve ça dans la Torah? Et en vérité, on retrouve ça partout, cette notion, surtout dans l'éducation. C'est quelque chose de. Avec tous les jours, ça.
Mandy, les très complexes. J'achète là, parce que si tu changes à chaque fois de d'ouvrage.